Europe 1, 9h-11h, Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Si vous nous rejoignez seulement, on fait le tour de la question avec un métier à l'honneur. Ce matin, nous aimons le faire régulièrement. Nous rendrons dans quelques jours hommage à la bravoure, à la générosité intrinsèque des pompiers. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de reporter de guerre au féminin. Des femmes reporters qui risquent leur vie, journalistes télé, radio, presse écrite, photoreporters sur les terrains étrangers, sur des terrains hostiles, dans des zones de guerre. Qui sont-elles? Comment voient-elles leur mission au quotidien? Et lorsqu'elles rentrent, comment vivent-elles aussi ce qu'elles ont vécu là-bas, parfois si loin? Deux d'entre elles sont avec nous ce matin pour témoigner, Marine Jacquemin et Liseron Boudoul, des noms qui vous sont familiers. On est ensemble, chère Julie, jusqu'à 11h sur Europe.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Marine Jacquemin, Liseron Boudoul, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci mesdames d'être avec nous. Je disais, vos noms sont familiers, en effet, comme ceux de Patricia Lémonière, d'Anne-Claire Coudray, d'Anne Barrier, des grandes Laroche-Joubert qui vous ont inspiré aussi, des signatures, des voix, des tons. Eh bien, vous témoignez dans un livre passionnant publié chez Talendier. Avant de se glisser dans vos pas, d'appréhender votre difficulté au quotidien, votre courage aussi, je voudrais qu'on parle de la France, du terrain français, parce qu'on a vu ces derniers jours des journalistes tabassés, à Rouen notamment, à Paris, en pleine contestation des Gilets jaunes. Quand vous voyez ça sur notre terrain à nous, qu'est-ce que vous ressentez, Marine Jacquemin?
C'est très curieux. Quand j'ai vu ce boxeur taper à terre un homme dont je ne savais même pas s'il était CRS ou pas, ça fait remonter des choses extrêmement violentes, justement, qu'on oublie quand on rentre à Paris, quand on rentre dans un pays en paix.
Ben oui.
Et j'étais très choquée aussi, en bas de chez moi, de voir des gens brûler des scooters Scoop. Vous savez, ces scooters qui sont tout le long des rues de Paris.
Qui scootent en libre-service, oui.
Oui, et qui servent aux jeunes, principalement aux jeunes. Donc je suis allée vers eux en leur disant, mais comment vous pouvez brûler des scooters qui servent aux jeunes? Ils étaient d'une telle violence. De voir des... Vraiment, c'est très choquant. De voir que les journalistes aujourd'hui doivent être encadrés en France par des gardes du corps, alors que nous, sur le terrain, ça ne nous est jamais arrivé. C'est vraiment violent. Ça fait remonter des souvenirs... vraiment, moi, qui me font mal et qui me déstabilise. Ouais. Ça ne remet absolument pas en cause les Gilets jaunes et ceux qui en sont à l'origine. Mais il faut savoir arrêter des révolutions. Par moments, j'arrive de Tunisie et je peux vous dire que 8 ans après, alors que le printemps arabe qui a commencé là-bas avait donné tellement d'espoir aux populations. Bien sûr qu'aujourd'hui, la Tunisie a une liberté de parole. Mais à quel prix? Il faut voir la tristesse, la paupérisation,
le désenchantement de ce pays.
Oui. Tous ces hôtels qui sont à l'abandon. Il faut savoir arrêter à temps et il faut surtout savoir bien choisir les leaders qu'on met en place à la place des dictateurs.
Je vous pose la même question, Liseron Boudoul, parce qu'en plus c'est intéressant, vous avez commencé à étudier vraiment la situation dans les banlieues, donc les émeutes, oui, aussi, la violence aussi en banlieue. Même chose quand vous voyez des journalistes encadrés, pris à partie, roués de coups en France. Qu'est-ce que ça vous fait?
Bon, c'est bien sûr exceptionnel et c'est pas une situation anodine.
Oui.
Mais ça nous choque et ça choque, je pense, un certain nombre de mes confrères et sûrement une certaine partie de la population, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en France. On voit plutôt ces crises et cette violence dans des terrains où il y a des conflits, où il y a un problème au sein de la population sur un thème particulier. Là, ce qui nous choque, c'est que cette violence s'adresse particulièrement aux journalistes, et que normalement on vit dans une démocratie où il y a une liberté d'information. Donc forcément on se pose des questions, aussi sur notre rôle, et peut-être on a aussi maintenant une tâche à accomplir, un devoir d'explication sur ce qu'on fait, sur comment on est perçu. Donc c'est peut-être à plus long terme, mais je pense qu'on doit aussi se poser des questions sur notre travail. Maintenant, cela ne justifie en rien des comportements de violence vis-à-vis de nous, mais attention, même si c'est compliqué, même si ça choque, Marine, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas un terrain de guerre.
Bien sûr.
Voilà.
Bien
sûr. La guerre, c'est autre chose. La guerre, c'est des tirs, la guerre, c'est des bombes, la guerre, c'est des tortures. La guerre, ce sont des arrestations arbitraires dans la rue et on finit dans des geôles. Et on peut être aussi cible d'assassinat quand on est journaliste, et on en a eu des exemples dans les dernières années. Je parle par exemple de Mossoul ou...
Bien sûr.
Homs. Donc voilà, je pense qu'il faut relativiser aussi.
Complètement.
Même si on doit se poser
Maintenant, aussi la question de notre responsabilité.
Sur notre responsabilité.
Notre métier a changé. Notre métier a changé. C'est-à-dire les chaînes info peuvent être très nocives par moments. Même si on fait bien son travail, c'est quand même répété à longueur d'heures.
Vous avez un carillon, chère Marine, je vous en prie. Vous pouvez répondre à votre téléphone. C'est peut-être un appel urgent qu'il ne faut pas ignorer. Mais Lise Boudoul, en effet, le métier a changé.
Cette violence était déjà visible, par exemple, en 2005. Moi, j'ai commencé par ça.
Dans cette révolte des banlieues.
Oui. Alors, effectivement, déjà, à cette époque-là, on se posait des questions. Faut-il aller dans les banlieues avec un casque? Parce qu'à ce moment-là, c'était des boules de pétanque qui tombaient du 8e étage, par exemple. Il y avait déjà ces questions. Je pense qu'on n'est pas allé plus loin. Je pense que maintenant, il faut vraiment se poser des questions. Comment on travaille? Comment on raconte notre métier?
Et comment on le raconte quand on part à l'étranger comme vous, sur les terrains hostiles? Parce que c'est ce qui nous réunit aussi avec cet ouvrage chez Talendier, ces femmes reporters de guerre qui témoignent. Est-ce que vous diriez qu'avec les nouvelles formes de guerre, justement, il est plus ou moins facile aujourd'hui d'exercer votre métier? Alors que les fake news, que ces théories du complot irradient aussi la planète entière, Marine Jacquemin, Lison Boudoul.
Bien sûr qu'il est beaucoup plus dangereux aujourd'hui de faire son métier. Et moi, je le fais très différemment depuis quelques années. C'est-à-dire, Liseron, par exemple, et depuis les printemps arabes, est en front line. Oui. Moi, j'ai quitté TF1 depuis une dizaine d'années maintenant. Et
pour réaliser des documentaires sur le plus long terme aussi?
Oui, parce que cette information immédiate me dérangeait. À un moment donné, moi, j'ai toujours aimé raconter... l'histoire des autres, la vie des autres m'intéresse. Et c'est ce qui a fait un peu ma marque de fabrique dans ce métier, d'aller voir par le petit bout de la lorgnette pour raconter la grande histoire. Moi, j'aime bien m'immiscer dans la vie des autres, les faire se raconter, m'effacer face aux... J'ai pas envie de parler de géostratégie ou de géopolitique. La petite histoire raconte vraiment la grande. Par exemple, je sais pas, je vais vous prendre un exemple tout bête. À Kaboul, dans un zoo, tout avait sauté. L'ours avait pris une roquette dans le visage, il était aveugle. Les singes étaient en dépression nerveuse. L'éléphant s'était pris une roquette dans le ventre. Et il y avait là un gardien du zoo avec un trousseau de clés dans le dos. Il y avait genre 100 clés pour des portes qui n'existaient plus. Tout avait sauté. Et j'ai fait ce reportage qui me semblait être un peu une métaphore de Kaboul. Et venaient là, les talibans, venaient là les pires, des monstres, et étaient totalement émus de voir ces animaux qui restaient, le peu d'animaux qui restaient dans ce zoo. Et quelle n'a pas été ma surprise. La veille, j'avais fait un reportage sur les enfants handicapés par les mines. Ça n'avait pas, ça avait certainement touché les gens, mais là, tous les spectateurs ont commencé à envoyer des chèques pour le gardien du zoo. Et voyez comment on peut raconter par une toute petite histoire la grande histoire de la ville.
Ouais, complètement. Et sensibiliser, ce sont ces anecdotes et ces histoires qu'on a envie que vous racontiez aussi. Marine Jacquemin, qu'on vient d'entendre, Lison Boudoul, vous qui êtes toutes les deux avec nous pour témoigner de ce métier, de cette vocation, de ce sacerdoce. On a le temps jusqu'à 11h de vous entendre sur le sujet. Et si vous souhaitez questionner ces femmes, n'hésitez pas. Le standard vous est ouvert. Vous connaissez le principe, le numéro, on le rappelle, Julie.
Le 39-21. À tout de suite. Elles sont femmes et reporters de guerre. Nous les recevons à l'occasion de la sortie du livre « Elles risquent leur vie » chez Talendier. Marine Jacquemin et Lise Ronboudoul sont les invités de Wendy Bouchard jusqu'à 11h.
Elles témoignent dans ce livre, en effet, avec trois autres femmes reporters et nous entraînent dans l'envers du décor. Pourquoi ont-elles choisi cette vie hors du commun? Je voulais vous lire, mesdames, et vous réagirez, quelques mots de la préface signée par Catherine Nel, qui a été d'ailleurs pour l'une et pour l'autre votre directrice de l'information à TF1. Je trouve qu'elle a trouvé de très jolis mots et des mots très justes sur le sujet. Elles partent, trois petits points, c'est leur métier. Partir pour se rendre compte, être sur le terrain, au plus près d'une certaine forme de vérité. Partir pour incarner, pour rencontrer, pour donner une voix à ceux qui sont inaudibles. Partir, en effet, c'est votre métier, Lison Boudoul.
Oui, partir, mais pas partir et ne pas revenir. L'idée, c'est toujours de revenir, hein, comme je dis. Donc, même quand les conditions sont extrêmes, on garde toujours ça en tête. Mais moi, ce qui me passionne dans ce métier, au-delà d'aller chercher une part de vérité, parce que la vérité, on ne l'a jamais totalement, c'est d'aller à la rencontre de toutes ces populations qui ont besoin aussi qu'on vienne pour témoigner. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans beaucoup de ces pays, notamment depuis les printemps arabes, les journalistes ont été perçus comme des dangers. C'est Bachar al-Assad qui dit « un journaliste avec sa caméra est plus dangereux qu'une kalachnikov ». Donc on a été quand même depuis 8 ans dans ces pays, Libye, Syrie notamment, surtout la Syrie, des cibles notamment même d'assassinats. Oui. Donc je pense que c'est aussi important de redire ça en ce moment.
Évidemment, alors que ça a été justement pour vous, le printemps arabe, un déclic. Vous êtes dit, je veux quitter le terrain français, les banlieues notamment, pour aller sur le terrain, pour témoigner de cette révolution.
Oui, c'est-à-dire que ça m'a donné l'occasion de faire mes preuves, parce qu'on n'entre pas dans le grand reportage de guerre comme ça. Oui. C'était encore, il y a quelques années, un terrain réservé à certains journalistes. Oui. Mais bon, je me suis battue pour ça et j'ai pu exprimer ce que j'avais envie d'exprimer en allant dans ces terrains complexes où justement, comme Marine le disait, on peut rencontrer, même dans les situations de détresse les plus extrêmes, des perles d'humanité. Mmh. et on voit des sourires et on revient avec ça en nous. On laisse toujours une part de nous, mais on revient aussi toujours avec des souvenirs et des contacts de personnes magnifiques qui ont réussi à sourire dans des situations
de stress absolu.
Oui.
Et j'imagine que c'est ça qui vous fait aussi tenir. Thierry nous écrit sur Facebook de Nantes. Je suis très admiratif de votre métier. Je voulais savoir s'il vous est arrivé d'être gêné par le fait d'être une femme ou si cela vous a permis de vous intégrer aux populations sur le terrain plus facilement.
Non, moi ça ne me gêne pas. Moi, je ne change pas de vie et de personnage et de caractère. Oui. quand je pars. Quoi.
Oui. On se voile évidemment dans la plupart des pays arabes.
Oui, dans certains pays, on se voile. Pas dans tous, parce qu'aussi on peut essayer d'expliquer qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Enfin, je veux dire, moi, ça ne me pose pas de problème, quoi, de mettre un voile quand il faut mettre un voile, et puis quand il faut mettre le casque, on met le casque aussi. Quoi, ça dépend des situations. Par exemple, il faut entrer en clandestine dans un pays en guerre qui est la Syrie, qui est l'exercice le plus difficile que j'ai jamais vécu. Hein. Journaliste clandestine dans un pays en guerre, c'est très compliqué.
Revenir, oui.
Donc il faut entrer en se camouflant et en ressemblant à une Syrienne, par exemple. C'est ce que j'ai fait. Donc on se camoufle et on bénéficie de l'aide de maman syrienne pour mettre exactement le petit voile en dessous du grand voile qui va faire qu'on dira que vous êtes une Syrienne.
Incroyable. On va revenir sur ces différents détails, mais vous vouliez réagir, je crois aussi, Marine Jacquemin, sur les mots de Catherine Nel. C'est intéressant qu'une femme directrice de l'information ait aussi veillé sur les femmes que vous étiez, sentinelle de cette information sur les terrains étrangers.
Et c'est ce qui fait la différence entre les femmes et les hommes, surtout. Parce que, alors déjà, sur le titre, moi, je n'étais pas vraiment d'accord avec ce titre.
Elles risquent leur vie.
Ça me choquait. On en a discuté tous avec l'éditeur.
Ah, il se trouve que vous avez tous risqué votre
vie. C'est un choix. Oui, mais moi, j'y pars comme le dit Eliseron. On ne part pas pour risquer notre vie. On part. Oui. Moi, je risque ma vie pour la vivre.
Oui.
Ici, je ne la vis pas. Alors que là-bas, je la vis pleinement. Par tous les sens de ma peau, tous mes sens sont en éveil. Et du reste, c'est ce qui nous protège. Et ici, on ne se rend même plus compte qu'on sent, on voit, on entend. Là-bas, chaque sens vous fait réagir. L'ouïe, la balle qui siffle au-dessus de votre tête, les bombes, l'odeur du sang, de la mort, enfin... voilà, on développe
sur tous les
sur
sens
le terrain,
sont en alerte extrême.
Un sixième sens, si je puis dire, un sens qui est bien particulier aux reporters. Chacun vous racontera le sien. Mais moi, je sais que le sixième sens me fait comprendre exactement la situation dans laquelle je suis, les gens en face desquels je suis. Et c'est même très gênant quand on vient ici parce que les gens sont transparents. Parce qu'on a développé ce sens incroyable qui est un sens... La peur est une boussole. La peur vous protège. Donc, il faut savoir exactement sur quel terrain on est. Pour revenir à Catherine Nel, moi, ce livre, je n'ai jamais jusqu'à présent témoigné dans quelques livres que ce soit. Parce que, contrairement à ce que dit Patricia dit
Patricia Lémonière,
elle dit...
Il faut témoigner, il faut raconter.
Il faut témoigner, il faut raconter.
Les gens
l'interrogent et elle dit, alors je raconte. Que Patricia est quelqu'un d'assez pudique, et elle dit, je raconte. Moi, je suis incapable de raconter. Pourquoi avoir participé à ce livre? C'est pour Catherine Nel. Parce que Catherine Nel, pendant des années, a été la seule à nous faire venir dans son bureau, à décrypter, à débriefer tout ce que nous avions vécu. Parce qu'il faut savoir que, contrairement aux armées, les reporters de guerre, qui ne font pas exactement le même métier, heureusement, n'ont jamais été débriefés par des psys. Et oui. Chacun ressort à sa manière par des dépressions. Moi, j'ai ressorti ça par un petit cancer du côlon. Le deuxième cerveau.
C'est ce que j'allais dire, parce que évidemment les syndromes post-traumatiques, ça peut évidemment vous arriver à toutes et à tous, hein, parce qu'on inclut tous les hommes reporters. Là, c'est une vision des choses avec vous. Et je voudrais vous donner la parole juste après Alice Romaudou et Marine Jacquemin.
Mais chacun
sur
le
ça,
ressent avec sa propre personnalité et sa propre histoire aussi.
Ouais, mais c'est très fort ce que vous racontez l'une et l'autre. Merci de nous engager dans cette aventure que vous avez livrée, que vous continuez de livrer si bien aux téléspectateurs, dans vos reportages, dans vos documentaires. À tout de suite avec ces femmes reporters qui vous expliquent leur métier. Julie, on vous a...
Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et ses invités. Nous mettons en lumière ce matin une profession spéciale, hein, celle des femmes reporters pour les journaux, les télés, les radios, la photo. Elles risquent leur vie au quotidien. Elles viennent témoigner ce matin.
C'est le titre de ce livre qui paraît chez Talendier, Une vie hors norme, un quotidien peut-être aussi hors norme, avec manière de préparer un déplacement, manière de travailler, de vivre sur place, avec une intuition, avec un flair, avec une confiance qu'il faut nouer avec les populations sur place. Marine Jacquemin et Lise Romboudoul sont avec nous. Vous commenciez à le dire, Marine Jacquemin, comment on vit les choses contrairement aux militaires. Il n'y a pas de débrief, on n'est pas forcément accompagné par des cellules psychologiques, mais j'imagine quand même, mais c'est peut-être vraiment un sentiment très personnel à chaque fois, que quand on vit de tels traumatismes, de telles violences sur le terrain, on peut vivre comme les soldats, par exemple, des syndromes post-traumatiques. Ça vous est jamais arrivé, Lise Romboudoul ?
Oui, ça arrive, mais je pense que le ressenti est vraiment propre. Moi, je n'ai pas jusqu'à présent ressenti le besoin d'aller voir un psy en rentrant ou même de craquer. Quoi. Pour l'instant, je n'ai jamais craqué parce que je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais j'arrive à gérer ce stress. Par exemple, en marchant beaucoup,
oui.
Quand je rentre de mission, c'est systématique. Je prends quelques jours de repos, de congé et je vais dans mon Auvergne natale et je marche des heures et des heures dans la forêt. Et je revis toutes ces émotions, tous ces moments intenses, toutes ces rencontres aussi qui sont quelquefois très fortes et qui marquent vraiment. Et ces moments de stress quand on est face à la mort ou quand on voit des gens torturés ou des amis qui nous accompagnaient, qui meurent devant vous parce qu'ils conduisent la voiture et tout à coup ils décident d'aller vous défendre parce qu'on sent que les rebelles arrivent et puis ils meurent devant vous parce qu'ils ont tout simplement voulu vous protéger. Ça nous est arrivé en Libye. Lors de la prise de Tripoli. Donc j'ai mes petites recettes, oui. J'allais dire, qui sont vraiment propres, qui sont simples, mais qui m'aident à me réoxygéner, à retrouver une vie normale. Je me souviens quand je suis rentrée de Syrie avec Guillaume Aguerre, mon caméraman, le seul qui d'ailleurs était d'accord pour partir avec moi en clandestine dans les années 2012-2013, quand il s'agissait de couvrir la prise d'Alep. Et donc les combats entre révolutionnaires et l'armée de Bachar al-Assad. Quand on est rentré à Paris, dans la rue, on se met à marcher normalement. Tu sais Marine, et on regarde et on voit les gens qui, tranquillement, traversent la rue. Et on se dit, ah mince, c'est quoi cette vie-là? C'est plutôt pas mal. Puis on redécouvre tout parce que pendant quelques jours, on a tellement été dans un contexte où il fallait faire attention à tout. On écoutait, on regardait, on se retourne. Et quand on marche, et à ce moment-là, il y a eu un bruit de pétard ou je ne sais pas quoi. Ah, j'ai sursauté, je me suis dit, mince, ça y est, ça recommence, les bombes. J'étais encore dans ces réflexes-là, alors que c'était un simple bruit dans la rue.
Ouais.
Et bon, donc voilà, petit à petit, on se réhabitue à la vie normale.
Mais c'est une vie quand même qui poursuit.
En même temps, on a toujours envie de repartir.
Oui. C'est
parce
ça,
que c'est un mélange d'adrénaline et de peur.
Oui.
Qui crée un espèce de moteur intérieur, faut bien le dire.
Mais il faut dire que vous êtes tout aussi, sauf des têtes brûlées, que c'est un travail de rigueur, d'exigence, de prise de risque, évidemment, mais d'abord d'exigence professionnelle.
Donc, et de préparation.
Et de sérieux, de préparation, Marine Jacquemin.
Il ne faut pas jouer sur ce terrain-là.
Oui.
Et pour enchaîner avec Liseron, moi aussi, j'ai mon sas de sortie, c'est Chamonix. Et Chamonix,
l'Auvergne, la montagne.
Mais bien sûr, c'est une oxygénation. Et puis être au contact des guides d'haute montagne. Je vis avec un guide d'haute montagne. Être au contact de ces gens-là vous apprend beaucoup aussi sur la route à prendre, parce que dans ces montagnes magnifiques, superbes, on le sait, elles sont aussi porteuses de mort. Et choisir sa route, passer à côté d'une crevasse, savoir la sentir, savoir l'appréhender. Moi, j'ai beaucoup appris de cette population de guides de haute montagne de Chamonix, parce que c'est là où il y a les plus belles montagnes, mais aussi les plus puissantes et les plus dangereuses. Mmh. Ça m'a beaucoup servi.
Eh bien, Marine Jacquemont, comme les Romboudoul, on va entrer dans vos vies un peu plus précisément. Vous allez nous dire les reportages qui vous ont plus marqué, les camarades peut-être que vous avez perdus, les images que vous retenez, voilà, et dont les téléspectateurs se souviennent aussi très probablement. Deux femmes reporters qui sont avec nous pour témoigner de ce livre qui me paraît chez Talendier, Elles risquent leur vie, en compagnie de Patricia Lémonière, d'Anne Barrier, d'Anne-Claire Coudray, qui vous accompagne aussi pour ce projet. A tout de suite, mesdames, avec Julie.
On retrouve nos invités Marine Jacquemont et Lise Romboudoul. Elles sont reporters de guerre. Elles viennent témoigner ce matin au micro de Wendy Bouchard.
Et Sylvie Berthe nous dire sur Twitter le hashtag Europe 1. J'admire ces femmes, leur courage, leur force, leur désir de proximité du terrain pour nous informer. Journaliste, un métier décidément multiple et passionnant. Merci de les mettre à la une sur Europe 1 dans ce tour de la question. Marine Jacquemont et Lise Romboudoul, on aime entrer avec vous dans vos pas, que vous nous racontiez les petites étincelles d'humanité que vous avez vues dans tous ces, sur tous ces terrains, dans tous ces reportages, et les moments charnières aussi dans vos vies. Je sais que vous avez été profondément, vous, Marine Jacquemont, marquée par ce que vous avez vécu au Rwanda. Ça reste un des épisodes forts de votre vie.
C'est presque un épisode j'ai eu envie d'arrêter ce jour-là. Quoi. Ouais. On est rentré parmi les premiers avec un journaliste formidable, Stephen Smith, qui travaillait à l'époque pour Libération. Il avait une grande connaissance du terrain. Et nous sommes passés par le sud au lieu de passer par le nord, comme tous les journalistes qui étaient pilotés par les Tutsis. Nous, on est rentrés en pays Hutu. Et là, on s'est abrité une nuit dans des cellules de moines à côté d'une cathédrale où dans la nuit, l'évêque a été assassiné, ainsi que les prêtres qui étaient avec lui. C'était dans la ville de Butare, et qui était devenue la capitale du pays Hutu. Et c'était affreux parce qu'il y avait un camp de réfugiés de 50 000 personnes à peu près, et où toutes les nuits on les massacrait, où toutes les nuits on les entendait hurler. Et nous-mêmes, nous avions peur dans nos petites cellules, mais eux étaient assassinés toutes les nuits. Et c'est là où j'ai vu un truc épouvantable, les plus grandes latrines du monde. Et le matin, sachant qu'il y avait une femme parmi ces hommes, les mamans arrivaient le matin avec les bébés dans les bras qui étaient morts, évidemment, et elles nous disaient « prenez-les pour les sauver ». Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y avait aussi à côté de nous un seul humanitaire de la Croix-Rouge qui n'avait que du blé à leur donner, qui leur donnait des diarrhées sanglantes. Et tout ça sous nos yeux. On passait des barrages le matin. Déjà, on nous pointait des armes sur la tête en nous demandant si on était belge ou français, parce que les Belges, étant les anciens colonialistes, ils n'avaient pas intérêt à se pointer dans le coin. Mais on repassait le soir et il y avait des cadavres empilés. Des cadavres et des cadavres et des cadavres. Et on voyait sous nos yeux se développer un génocide qui ne portait pas encore le nom de génocide. Et bon, c'est ce que ça a donné.
Et là, quand on est grand reporter, on se dit à quoi bon être là ? Qu'est-ce que je peux faire dans toute cette souffrance ?
Oui. Moi, je me suis sentie tellement impuissante durant ces semaines-là que je suis rentrée vraiment, alors, pour la première fois, très traumatisée. Parce que comme le dit Liseron, c'est vrai que nous sommes témoins de choses, de massacres, de viols. Et puis, on garde comment dire, on garde nos larmes pour nous. Mmh. Mais quand on rentre, après avoir vu des massacres comme cela, je sais pas, il y a des images qu'on ne peut pas filmer. Je me souviens d'une cour de ferme en Azerbaïdjan où toute la famille avait été découpée en morceaux, avec les têtes au-dessus des morceaux. Ce sont des images comme ça que vous enregistrez, mais vous gardez une espèce de pudeur parce que vous dites « bon, moi je suis là parce que j'ai choisi d'être là ». En revanche, toutes ces populations qui ont à vivre, nous on vit ça quelques semaines de temps en temps, mais ces populations qui le vivent pendant des années et des années, ces enfants, je sais pas, je pense aux enfants d'Irak qui sont devenus aujourd'hui des monstres, et on le serait à moins qui beaucoup d'entre eux représentent les forces de Daesh aujourd'hui. Mais ils sont nés dans la guerre, ils ont vu les massacres, ils ont vu les viols, ils ont vécu tout cela sans pouvoir rien dire. Comment on exprime ça? C'est à ces populations-là qu'il faut penser, parce qu'on fait d'eux des monstres aussi. Quand on décide d'aller faire la guerre dans un pays qui n'est pas le nôtre, est-ce que vous imaginez si demain matin, les forces irakiennes entraient en France et décident de tout. Comment nos enfants vont réagir? Pendant la guerre de 14, nous aussi, on a posé des bombes, Non, mais il faut quand même mettre en perspective tout cela. Alors, bon, c'est dit de manière très raccourcie. Ce que je raconte là sont des petites anecdotes, mais une fois de plus, qui témoignent de ce qu'on peut faire des hommes. Voilà.
C'est vrai ce que tu dis, Marine. Oui. Moi, je me souviens d'un reportage au fin fond de la République démocratique du Congo, donc en Afrique, dans une région qui s'appelle le Kivu. Et j'allais faire un reportage sur une association qui aidait les jeunes enfants soldats, 12 ans, ouais. 13 ans, qui avaient été forcés par des groupes rebelles à prendre les armes et à se battre, ou alors utiliser comme peut-être quelquefois même boucliers humains. Et donc j'arrive à parler à un jeune garçon qui avait 13 ans, et il me dit, pour me rendre fort, les rebelles, ils me les désignent, ils me les montrent, ils étaient à 6 ou 7 mètres, ils m'ont demandé d'aller voir ma mère et avec un sabre de lui couper le sein gauche. Et je l'ai fait. Et quand on entend ça, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ce témoignage? Et en même temps, notre rôle, c'est peut-être de donner ce témoignage, mais d'expliquer le contour, d'expliquer l'environnement, de raconter comment on en arrive là. Parce que si on ne fait pas ça, nous, qui va le faire? Donc peut-être qu'en alertant, en donnant ces informations, en expliquant, on imagine toujours qu'on peut engendrer un certain nombre de réactions qui vont faire qu'on va s'intéresser à ce pays et peut-être aller voir ces associations qui aident les enfants à se sortir de cet environnement qui est complètement dur à vivre, après psychologiquement et même socialement. Donc peut-être que c'est aussi ça notre rôle, d'aller chercher l'info, mais pas de revenir et de prendre quelques images et puis de se sauver et partir et de tout oublier. Non, c'est moi, mon rôle, c'est aussi ça, je le vis comme ça, ce métier, c'est de continuer toujours. Je reste toujours en contact, toujours en relation avec gens que je rencontre.
Ce sont des familles.
Et même ici, on peut faire avancer des situations. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur le cas des Yézidis. Notamment ces jeunes femmes qui ont été
violées,
les esclaves sexuels de Daesh. Donc c'est récent. Hein. Là, on ne parle pas du Rwanda, on ne parle pas de la République démocratique du Congo. C'était il y a 3 ans, le massacre, parce que c'était presque un génocide, mais ce n'est pas encore appelé comme ça, mais le massacre des Yézidis en Irak, enfin, au Sinjar, entre Kurdistan syrien et Irak, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'était en 2014 et on n'a rien fait. Ça s'est presque déroulé sous nos yeux, on avait des images. Et quand on retourne là-bas, quelques mois après, et qu'on rencontre une jeune fille qui a réussi à être libérée, qui a 18 ans, qui est assise devant vous, qui arrive même à vous sourire quand vous lui adressez la parole, et elle vous dit « Moi, j'ai été vendue 18 fois par des émirs de Daesh, violée 15 fois par jour par différents hommes. » On le prend dans la gueule, comme je dis, quoi. Alors bien sûr que c'est intéressant d'apporter ce témoignage, parce qu'on comprend comment ça s'est passé, comment, encore une fois, on a pu en arriver là. On comprend tout un contexte, mais le soir, quand on rentre dans sa chambre d'hôtel, on craque, forcément.
Ah, quand même.
Oui, mais je ne dis pas que je ne craque pas. Je dis que je le fais dans certains moments, et peut-être pas devant tout le monde.
Voilà, bouleversant témoignage de Lison Boudoul et de Marine Jacquemin ce matin, qui nous donne la difficulté aussi de ce que vous vivez, la force que vous avez pour affronter ça et pour témoigner, pour poursuivre avec ces images, le choc des mots, le choc des images et des photos. Peut-être une prise de conscience dans nos sociétés, à nous, à l'abri et en paix. À tout de suite avec vous, mesdames. Jusqu'à 11h, nous vous faisons partager le métier de femmes reporters qui risquent leur vie
pour nous informer de Kaboul à Mossoul, de Beyrouth à Tripoli. Marine Jacquemin et Lise Romboudoul sont avec nous.
Elles parlent peu d'elles, ces femmes en général, évidemment, avec la pudeur qui caractérise nos métiers. Mais là, elles racontent aussi ce qu'elles ont vécu ces dernières années, ces bouleversants de réalisme, de vérité, de folie aussi, de violence. Être femme reporter, c'est vivre un peu à part forcément. Alors, les hommes reporters, on en parle et on en est fiers. Nous avons Didier François ici, qui nous a fait bien des frayeurs en étant otage en Syrie lui-même, parce que c'est la boule au ventre que les patrons aussi acceptent de vous laisser partir sur ces terrains, j'imagine, hein, la peur de l'enlèvement, de la disparition, de la mort sur les mines, par exemple. Et puis nous voulions citer notre amie,
petite, oui, Gwendoline de Bonneau,
formidable,
qui fait notre admiration, voilà,
qui a une trentaine d'années, qui est absolument
reporter de guerre, elle aussi.
Formidable, voilà. Comment on va plus loin aussi, comment on rapporte et comment on transforme tout ce qu'on a vécu sur le terrain. Vous nous parlerez dans quelques instants, Marine Jacquemin, de cet hôpital, de ce que vous avez créé à Kaboul, en Afghanistan, une partie de votre vie, et là-bas aussi, ça c'est formidable. Pour vous aussi, Lise Romboudoul, l'aventure parfois s'est prolongée.
Continue.
Ouais, oui, continue.
Et justement, suite à ces kidnappings et à ces conditions extrêmes en Syrie dans les années 2012-2013, la direction de l'information à TF1 avait décidé qu'on ne rentrait plus en Syrie en clandestin. Et donc, moi, je voulais absolument poursuivre. Il fallait poursuivre quand même les enquêtes, essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de ce pays où on ne pouvait plus aller. Donc, je suis allée enquêter à la frontière turco-syrienne. Pour essayer d'enquêter sur cette terreur qui tétanisait les populations à l'intérieur, mais aussi les journalistes, parce que c'est ça le but des dictatures, c'est de répandre la peur partout. Ouais. Et là, je me suis trouvée face à un garçon que j'ai rencontré dans la rue par l'intermédiaire de contacts, de journalistes citoyens, comme on dit, des Syriens, qui m'ont dit « il y a une famille qui vient d'arriver ». Et ce jeune garçon qui avait 13 ans et demi... avait été victime de Daesh, puisque un émir, et notamment al-Baghdadi, le grand émir, le grand chef de Daesh, avait décidé que, comme il ne voulait pas rentrer dans les forces de Daesh, dans l'entraînement militaire, eh bien, il lui couperait la main droite et le pied gauche. Donc il a subi ça sur la place publique, dans une ville qui s'appelle Deir ez-Zor, qui était une ville qui était contrôlée par Daesh, puisque à l'époque Daesh invitait la population pour justement la tétaniser encore plus et l'effrayer. Et après un jugement du tribunal islamique, donc il s'est retrouvé là tout petit, et un djihadiste qui faisait 2 mètres de haut et 200 kilos lui a donc coupé avec un couteau de boucher la main droite et le pied gauche. Et le pied gauche, il lui l'a coupé en diagonale pour qu'il souffre encore plus. Et il me raconte ça. Et tout à coup, il n'arrive plus à parler, ce que je comprends, parce qu'il revivait ça. Et sa grand-mère me prend la main, parce que c'était elle qui avait fait traverser toute la Syrie d'est en ouest pour le ramener dans un hôpital où il était très mal soigné. Mais enfin bon, c'était mieux que rien. En Turquie, quoi, à la frontière turco-syrienne. Et elle me raconte comment ils ont passé les checkpoints, qu'ils ont payé Daesh, puisque même les djihadistes sont corruptibles. Et là, elle me prend la main, elle me dit, Lisa, parce qu'en fait, dans les pays arabes, ils n'arrivent pas à donner mon prénom, donc ils m'appellent Lisa. Lisa, aidez-moi, aidez-moi. Ça fait 3 fois qu'ils tentent de se suicider, Ali. Il s'appelait Ali, le petit garçon. Et là, je me suis... Bien sûr que ce reportage était merveilleux parce qu'il y avait une force de témoignage et il nous racontait tellement sur les conditions à l'intérieur qu'il a créé un gros effet à l'antenne, quoi. Il est passé dans le 20h et je me suis dit, il faut que je l'aide. Et après le 20h, tout de suite après, je reçois un coup de fil d'une ONG qui justement aide les populations dans ces terrains-là, dans ces pays où la guerre prend tout. Et le médecin-chef qui s'appelait Eric me dit, c'était la chaîne de l'espoir, me dit, on va sauver Ali, on va faire quelque chose. Alors je me dis, bon, d'accord, parole d'une ONG. Puis le lendemain, il me rappelle, il me dit, non, on y va, on fait tout pour le ramener et on va lui remplacer, on va lui donner un pied, on va lui donner une main. Et petit à petit, on a construit une stratégie pour obtenir un visa avec l'aide du Quai d'Orsay, bien sûr. Et quelques mois après, le petit Ali est arrivé à Paris et depuis, il remarche.
C'est magnifique, comme histoire.
Et il apprend même. Et il
c'est
apprend
Philippe
même...
Valenti, non? Philippe Valenti qui s'est occupé de lui à la chaîne
pour la chaîne de l'espoir.
Peut-être, oui, entre autres. Et depuis, il remarche. Il a retrouvé le sourire. Bien sûr, sa famille n'est pas là, puisque sa famille n'a pas pu venir. C'est compliqué maintenant avec les réfugiés, de toutes parts d'ailleurs. Mais au moins, il vit encore et il apprend même un métier, puisqu'il apprend à jardiner. Je trouve que c'est aussi intéressant comme domaine.
Donc
pour
lui. Donc il vit à Paris.
Et il a même une petite amie.
Et ben voilà, ça c'est magnifique. Voilà.
Donc
comment,
voilà, donc
comment
je me suis dit que j'ai au moins servi à ça. Ouais. Et à travers son témoignage, je pense que voilà, on a peut-être pu faire passer bien sûr une émotion, mais peut-être autre chose aussi. Il faut essayer d'ouvrir son regard sur l'extérieur pour comprendre, y compris notre monde à nous en ce moment.
Bien sûr.
Et je trouve que c'est assez important de garder ces petites lucarnes sur l'extérieur.
Voilà, l'utilité immense du grand reportage, du reportage de guerre. Marine Jacquemin, vous allez nous dire tout ce que vous avez fait aussi en Afghanistan, qui est un pays que vous connaissez bien, avec cet hôpital, cette maternité que vous avez ouvert à Kaboul, et la chaîne de l'espoir, encore formidable au cœur de ce projet. À tout de suite sur Europe 1.
Pour la première fois, elle raconte leur mission en Afghanistan, en Syrie, en Irak. Des femmes reporters dans ce livre qui paraît chez Talendier. Elles risquent leur vie, c'est le titre. Et nous recevons Marine Jacquemin et Liseron Boudoul.
C'est un collectif de témoignages avec ceux d'Anne-Claire Coudray, d'Anne Barrier, Patricia Alémonière qui complètent ce collectif précisément. Liseron Boudoul, vous nous avez émus comme vous nous émouvez aussi, Marine Jacquemin, depuis le début de cette émission en nous parlant de ce petit Ali, voilà, ce jeune garçon que vous avez, auquel vous avez donné une autre vie en France. Voilà un prolongement, par exemple, très humain de ce que vous voyez sur les terrains de guerre. Quant à vous, Marine Jacquemin, avec cet hôpital, avec cette maternité à Kaboul, vous avez quoi, depuis une quinzaine d'années, sauvé, soigné grâce à cette infrastructure, quoi.
La chaîne d'espoir,
dizaines de milliers
encore, sauvé, soigné, la chaîne d'espoir.
50 000 personnes.
Oui, enfin, je crois qu'il y a eu à peu près 100 000 consultations depuis que l'hôpital est ouvert. Et il faut rappeler que cet hôpital, bien sûr que ça part de moi, ça part d'une expérience personnelle, d'une douleur personnelle qui fait que je n'ai pas pu avoir d'enfant. Mais ça part aussi de Muriel Robin, parce que sans elle, si un jour elle ne m'avait pas appelée pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire, je ne suis pas sûre que...
Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'elle avait été bouleversée par vos témoignages.
Bouleversée par
vos reportages.
Un reportage, c'était des enfants en bas âge qui fabriquaient des briques pour leur survie.
Je me souviens de ça.
Dans des camps de réfugiés au Pakistan, ça avait marqué absolument tout le monde. Et c'était une époque où la France n'avait jamais été touchée, enfin pas de cette manière-là, par les attentats que nous avons connus. Et les Français, mais vraiment comme un seul homme, se sont émus grâce à Muriel et à son témoignage, sont émus, nous ont beaucoup aidés, beaucoup d'argent, c'était incroyable, on ne pourrait pas faire la même chose aujourd'hui. Et puis,
Qui sait? Vous voyez, regardez toutes les cagnottes, toute la mobilisation, c'est dire encore qu'on est en prise dans l'empathie.
Et on n'a plus le même regard sur l'Afghanistan ou sur tous ces pays, malheureusement, qui ont des populations magnifiques. Et donc cette chaîne de l'espoir, surtout leurs équipes, mais sont des gens incroyables. J'ai fait un film pour TF1 là récemment, justement pour parler de leur engagement envers et contre tout, au péril de leur vie. Ils viennent, ces gens-là, opérer régulièrement et toujours. On ne perd des cœurs à Kaboul.
Et bénévolement.
Et bénévolement,
il faut le dire aussi.
Sûr, il faut le dire.
Dans un hôpital qui a poussé, c'est symbolique, sur une ancienne ligne de front.
Sur une ancienne ligne de front, oui. Je me souviens, il y avait des tanks, des cadavres, etc. Quand on a commencé avec les équipes de Bouygues à envisager la construction de cet hôpital. Et c'est vrai que aujourd'hui, enfin, je me souviens aussi de l'époque, c'était un vieux monsieur qui venait me voir et qui me disait, quand je pense à tout le malheur qu'on a donné à ce pays, c'est, on a tout détruit et vous, vous êtes là, vous venez reconstruire. Alors, on est tous prêts comme une armée à venir vous aider. Ils étaient 400. On peut travailler pour vous gratuitement. On fera ça, on sait que c'est pour nos enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, on opérait encore sous éther, il y a 15 ans, en Afghanistan. Et aujourd'hui, il y a une immense salle de réanimation, il y a 4 salles d'opération. Et puis surtout, ce qui est formidable de la part de la chaîne de l'espoir, c'est la transmission. Aujourd'hui, les Afghans opèrent. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Et puis, on stabilise justement. Avant, tous ces gens-là allaient se faire opérer ailleurs. Ils voulaient tous être opérés en France ou en tous les cas en Europe. Aujourd'hui, ils sont opérés sur place. parce que la chaîne de l'espoir a formé des chirurgiens, enfin toutes sortes de,
c'est
infirmiers.
C'est magnifique comme floraison d'humanité de
vie. Oui, il faut que ça serve à quelque chose.
Et vous puis,
travailler à la télévision, c'est aussi un atout. Hein, parce que
mettre sa notoriété à ce service-là aussi, c'est magnifique.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
On aurait pu faire 2 heures d'émission avec vous et je suis très frustrée de devoir vous quitter, Liseron Boudoul et Marine Jacquemin. Est-ce que vous savez où vous repartez demain, après-demain, Liseron ?
Non, pour le moment non, mais je travaille sur, notamment sur le Kurdistan syrien et sur la suite de l'histoire des Yézidis, puisque le président Macron souhaite aider cette population qui a été massacrée à retrouver ses terres, à reconstruire les villages, les hôpitaux, les écoles dans le mont Sinjar qui est entre Kurdistan syrien et nord de l'Irak. Et donc j'espère y aller pour montrer que justement la vie va se poursuivre malgré le génocide.
Eh oui, et on vous retrouvera sur TF1. Quant à vous, Marine Jacquemin.
Moi, je suis allée passer quelques jours à côté d'Odeïda, le port yéménite, où il y a un grand camp de réfugiés à côté de Sanaa. Et justement, comme le projet afghan est terminé pour moi, j'ai tourné la page, 25 000 mètres carrés d'hôpital, repris par aussi la fondation Aga Khan. Mmh. Donc bientôt, ce sera 45 000 mètres carrés. Et c'est un hôpital qui me survivra. Donc l'expérience a été tellement formidable que j'essaie d'en commencer une autre.
Au Yémen, donc.
De nouvelles ONG et de voir un peu ce que nous allons pouvoir faire là-bas parce que il y a à peu près 14 millions de personnes en pré-famine et des enfants, des milliers et des milliers d'enfants qui meurent dans le silence absolu des médias. On est trop occupé par les gilets jaunes.
Et ben voilà, merci au moins
pour
d'en dire quelques mots aujourd'hui. Et on vous suivra. Merci mesdames, vous êtes formidables. Liseron Boudoul, Marine Jacquemin, merci. Elles risquent leur vie, c'est chez Taillandier.
Merci à vous.
À bientôt. Merci.